Alors, on va passer maintenant à la lettre des communautés de Vienne et de Lyon. Alors, c'est une lettre. Alors, c'est un peu bête, je l'avais préparée, mais j'ai oublié de la prendre. Je vous la donnerai la fois prochaine. C'est une lettre qui est conservée, enfin, qui nous, conservée par Eusèbe de Césarée, au cinquième livre de son histoire ecclésiastique. Et elle est adressée aux frères d'Asie et de Phrygie, et elle date de 177. À l'occasion d'une fête, la population réclame, toujours sur la base des mêmes ragots, la persécution des chrétiens. D'une fête de population gallo-romaine, hein, et qui était au confluent de la Saône et du Rhône, l'amphithéâtre des Trois Gaules. Et du coup, les autorités cèdent et elles sont obligées d'instruire le procès, toujours en essayant de faire abjurer les suspects. Et une cinquantaine sont condamnés, de l'évêque Potin, 90 ans, qui mourra en prison des sévices subis, à la jeune esclave Blandine, oui, et à Pontique, un jeune garçon de 15 ans, en passant par le diacre Sanctus de Vienne, les néophytes Marturus et Attal. Donc vous voyez, à la fois des gens de Vienne, enfin Vienne en France, et en Gaule, oui, et Lyon. Donc quelques-uns abjurent, il y a des guérisons miraculeuses, et certains renégats reviennent sur leur décision et rejoignent les martyrs. Les survivants, eux, donc ceux qui ont été... suppliciés mais qui n'ont pas été condamnés à mort, refusent le titre de martyr, se contentant de celui de confesseur. Et ils intercèdent pour les renégats. Alors certains martyrs sont orientaux, d'autres sont latins, les uns sont des patriciens, les autres des plébéiens ou des esclaves, l'un est médecin, et d'autres sont des artisans. Alors certains des chrétiens qui étaient restés libres, comme par exemple Vétus et Pagatus, un jeune notable, vont rejoindre spontanément les condamnés en confessant publiquement leur foi face à la foule haineuse.
Mais là, ils ne provoquent pas un peu leur martyr, selon ?
Ben, c'est-à-dire que, oui, un peu, hein, mais en même temps, et voilà, ils avaient leurs frères qui étaient, condamnés, ben, du coup, ils les ont rejoints. Alors, enfin, au moins lui, quelques-uns.
Ils ont rejoint, c'est pas la même chose que de provoquer.
Oui, c'est pas la même chose que de provoquer, quand même, oui. Alors, les citoyens romains sont décapités, hein, comme Paul, par exemple. Les autres sont livrés aux bêtes. Le 1er août, donc à cette grande assemblée des Trois Gaules où on faisait des jeux pour la population. Alors Blandine est pas nécessairement une jeune, hein, parce qu'on dit la jeune Blandine, mais c'est la légende. En fait, on sait juste qu'elle était esclave, mais donc on imagine qu'elle était jeune, mais ça tombe, elle pouvait être âgée. Hein. On n'en sait rien. Donc, elle était suspendue à un poteau et elle est réservée pour le dernier jour avec Pontique, le jeune de 15 ans. Alors, du coup, comme on se dit que Blandine était avec le jeune de 15 ans, on pense qu'elle était jeune. Mais bon, finalement, c'est pas sûr. Qui est, lui, horriblement torturé. Alors, les bêtes repuent, comme c'était le dernier jour, l'épargnent et elle est livrée dans un filet à un taureau déchaîné. Et là aussi, comme pour le martyr de Polycarpe, le légat fait brûler les corps et jeter les cendres, et là, pour le coup, encore plus prudent, jeter les cendres dans le Rhône, ou la Saône, je ne sais pas, pour éviter que les chrétiens survivants rendent un culte à leur martyr.
Comme Jeanne d'Arc.
Oui, comme Jeanne d'Arc. Et alors, si vous voulez, j'ai le texte dans ce document. Alors voilà, pour Potin. Le bienheureux Potin, à qui avait été confié à Lyon le ministère de l'Épiscopat, était alors âgé de plus de 90 ans. Il était très faible de corps et pouvait à peine respirer à cause de cette faiblesse physique. Mais il était fortifié par l'ardeur de l'esprit à cause de son désir persévérant du martyre. Lui aussi fut traîné devant le tribunal. Son corps était brisé par la vieillesse et la maladie, mais il restait maître de son âme pour qu'elle fasse triompher le Christ. Il fut porté au tribunal par les soldats, tandis que les magistrats de la cité et toute la foule l'accompagnaient avec toutes sortes de clameurs, comme s'il était lui-même le Christ. Il rendit un beau témoignage. Le gouverneur lui demanda qui était le Dieu des chrétiens. Il lui répondit, « Si tu en es digne, tu le connaîtras. » Il fut alors emmené et traîné sans pitié. Il souffrit toutes sortes de coups. Ceux qui étaient près de lui l'outrageaient de toute manière, des mains et des pieds, sans aucun respect pour son âge. Ceux qui étaient loin lançaient sur lui tout ce que chacun avait sous la main. Et tous auraient pensé être grandement criminels et impies s'ils avaient manqué de grossièreté à son égard. Ils croyaient en effet venger leur Dieu en agissant ainsi. Potin respirait à peine quand il fut jeté en prison, et après 2 jours il rendit l'âme. Voilà. Et alors, pour les autres, la violence de la persécution qui a eu lieu ici, la grande colère des païens contre les saints, tout ce qu'ont enduré les bienheureux martyrs, nous ne sommes pas capables de le dire exactement, et il n'est même pas possible de l'exprimer par écrit. Car c'est de toutes ses forces que l'adversaire a foncé, préludant déjà à ce qui sera son véritable avènement. Il a passé partout, entraînant ses partisans et les exerçant d'avance contre les serviteurs de Dieu. De la sorte, on ne nous a pas seulement chassés des maisons, des bains, de la place publique, mais encore on nous a interdit absolument de paraître en quelque lieu que ce soit. Donc vous voyez, l'auteur dit que, en fait, c'est à l'instigation du démon que ces persécutions se déploient. Toute la colère de la foule, du gouverneur et des soldats se déchaîna sans aucune mesure contre Sanctus, le diacre de Vienne, contre Maturus, nouvellement baptisé mais généreux athlète, contre Attal, originaire de Pergame, qui avait toujours été le pilier et le soutien de ceux d'ici, et enfin contre Blandine. Par celle-ci, le Christ montra que ce qui est simple, sans apparence, facilement méprisable pour les hommes, est jugé digne d'une grande gloire auprès de Dieu, à cause de l'amour qu'on a pour lui, amour qui se manifeste dans la force et ne se glorifie pas des apparences. Nous tous, en effet, nous redoutions, et sa maîtresse selon la chair, qui était elle aussi une combattante parmi les martyrs, redoutait anxieuse avec nous que Blandine ne pût avec assurance faire sa confession de foi à cause de la faiblesse de son corps. Vous voyez, soit trop jeune, soit trop vieille. Hein. Mais Blandine fut remplie d'une telle force qu'elle lassa et découragea ceux qui, se relayant les uns les autres, l'avaient torturée de toute manière depuis le matin jusqu'au soir. La bienheureuse, comme un généreux athlète, se renouvelait dans sa confession. C'était pour elle un réconfort, un repos, un arrêt dans la souffrance que de dire « Je suis chrétienne, chez nous il ne se fait rien de mal ». Quelques jours après, Maturus, Sanctus, Blandine et Attal furent donc conduits aux bêtes dans un lieu public où se donnait ce spectacle de l'inhumanité des païens. C'était précisément le jour où les combats de bêtes devaient être donnés aux dépens de nos frères. Alors, il y a un texte encore. Blandine fut suspendue à un poteau et exposée pour être la pâture des bêtes lâchées contre elle. À la voir suspendue à une sorte de croix, à l'entendre prier continuellement, les lutteurs fortifiaient leur courage. Dans ce combat, ils voyaient de leurs yeux, sensiblement, à travers leur sœur, celui qui avait été crucifié pour eux. Ainsi, ceux qui croient en lui sont persuadés que tout homme qui souffre pour la gloire du Christ est pour toujours en communion avec le Dieu vivant. Ce jour-là, aucune bête ne la toucha. Elle fut détachée du poteau, ramenée dans la prison et gardée pour un autre combat. Elle traversait donc victorieusement des luttes plus nombreuses afin d'être un encouragement pour ses frères, elle, la petite, la faible, la méprisée. Car elle s'était identifiée au grand et invincible athlète, le Christ. Elle avait triomphé de l'adversaire en maintes rencontres et par la lutte avait remporté la couronne de l'incorruptibilité. Enfin, le dernier jour des combats singuliers, après les fouets, après les fauves, après le grill, elle fut finalement jetée dans un filet et livrée à un taureau. Longtemps, elle fut projetée par l'animal, mais elle ne sentait rien de ce qui lui arrivait à cause de l'espérance et de l'attente de ce en quoi elle avait cru et de sa conversation avec le Christ. Elle fut sacrifiée, elle aussi, et les païens eux-mêmes avouaient que jamais chez eux une femme n'avait souffert d'aussi grandes et aussi nombreuses tortures. Et... Alors ça, c'est qu'un extrait, parce qu'il y a aussi le martyr du jeune, là, et puis des autres qui est décrit dans cette lettre. Et puis, on peut terminer par la passion de Perpétue et Félicité. Alors, c'est pas très drôle, aujourd'hui, mais...
Ça
nous prépare. Ben oui, peut-être bien.
Pas de mal.
Alors, je me demande, je pense que je l'ai là-dedans. Perpétue Félicité, oui. Ça, ce sont les matines du nouveau rite, en fait.
Non plus.
Alors là, il s'agit aussi d'une condamnation collective de 5 personnes, Perpétue, d'une famille distinguée, son esclave Félicité, qui était catéchumène, une autre catéchumène et 2 autres chrétiens, la persécution ayant lieu en 203. Elle compte 21 chapitres, mêlant les paroles des martyrs à des visions qui font penser justement au pasteur d'Hermas. Souvenez, avec toutes ces visions, la tour, la vieille dame qui est rajeunie, qui est l'église, enfin, etc. En effet, Perpétue a 3 visions dans sa prison. Une échelle gardée par un dragon, et elle parvint tout de même... en haut, avec Saturus, qui est un des chrétiens condamnés, où elle rencontre un berger qui lui donne du lait sacré, du lait sucré, pardon, je dis des bêtises, du lait sucré. Et souvenez-vous que dans mais justement, vous allez voir que c'est pas si bête, parce que dans les rites du baptême de l'Antiquité, voilà, on donnait justement du lait sucré, on donnait une sucrerie, voilà, oui, pour au moment du baptême. Alors après, elle a une autre vision. Son frère mort précocement, qu'à sa prière elle guérit de sa maladie. Et puis 3e vision, le combat dans l'arène, dont elle sort victorieuse face au diable. Donc elle voit un grand diable qui combat contre elle dans l'arène. Et Saturus, lui aussi, a des visions prémonitoires. Puis vient le récit du martyr au chapitre 16 à 21. Et quant à Félicité, catéchumène, elle était enceinte. Alors les autorités attendent la naissance de l'enfant pour l'exécuter elle aussi. Mais au moins, ils respectent ça.
Ouais. C'est mieux que chez nous.
Hein. Ouais. Alors, je vous lis la page qui est dans les matines. Le jour se leva où les martyrs allaient remporter la victoire. Et ils sortirent de la prison pour s'avancer vers l'amphithéâtre, comme s'ils allaient au ciel. Ils avaient des visages gais et radieux, et s'ils tremblaient, c'était de joie, non de peur. Bon. Perpétue, la première, fut frappée par les cornes d'une vache furieuse et tomba à la renverse. Puis elle se releva, et voyant que Félicité avait été précipitée sur le sol, elle s'approcha, la prit par la main et l'aida à se redresser. Toutes deux demeurèrent debout. La cruauté du peuple s'apaisa et on les fit sortir par la porte des vivants. Là, Perpétue fut accueillie par un certain rustique, alors catéchumène, qui était à son service. Et comme si elle sortait du sommeil, tellement elle avait été ravie en extase, elle se mit à regarder autour d'elle et dit, à la surprise de tous, « Quand donc serons-nous exposés à cette vache dont on parle ?» Et quand elle apprit que cela avait déjà eu lieu, elle ne le crut pas avant d'avoir reconnu sur son corps et sur ses vêtements les marques des coups. Alors, après avoir appelé son frère et ce catéchumène, elle les exhorta ainsi, « Demeurez fermes dans la foi, aimez-vous tous les uns les autres, ne soyez pas ébranlés par nos souffrances. » De même, Saturus, à une autre porte, s'adressait ainsi au soldat Pudens. « Finalement, comme je l'avais pensé et annoncé par avance, je n'ai vraiment rien souffert d'aucune bête jusqu'ici. Et maintenant, crois de tout ton cœur. Voici que je vais au-devant du léopard, et par une seule de ses morsures, je parviens au but. » Et aussitôt, à la fin du spectacle, il fut livré à un léopard. À la première morsure, il fut tellement inondé de sang que le peuple, lorsqu'il revint, cria comme si on était au bain « Baigne-toi et bonne santé, baigne-toi et bonne santé. » Ce cri témoignait qu'il avait reçu le second baptême, celui du sang. Et certes, après un tel bain, il avait trouvé le salut. Alors, il dit au soldat Pudens « Adieu, garde mon souvenir et garde la foi, que tout cela, au lieu de t'ébranler, te fortifie. » En même temps, il lui demanda l'anneau qu'il portait au doigt, et après l'avoir plongé dans sa blessure, il lui remit en héritage, lui laissant cette relique, ce mémorial de son sang. Puis, comme il est inanimé, on le jette avec les autres dans le local où l'on devait les égorger. Mais comme le peuple les réclamait au milieu de l'arène pour être témoin oculaire de leur mise à mort, en voyant l'épée s'enfoncer dans leur corps, ils se levèrent d'eux-mêmes et se portèrent à l'endroit voulu par le peuple. Mais d'abord, ils s'embrassèrent pour achever la célébration de leur martyre par le rite du baiser de paix. Tous sur le coup d'épée, immobiles et silencieux. En particulier Saturus qui rendit l'esprit le premier, lui qui était monté le premier à l'échelle de la vision de Perpétue, pour attendre celle-ci. Perpétue, quant à elle, devait faire l'expérience de la douleur frappée entre les côtes et elle poussa un grand cri. Puis, comme la main du gladiateur débutant hésitait, elle la poussa elle-même sur sa gorge. Sans doute une telle femme ne pouvait-elle être mise à mort autrement, elle qui faisait peur à l'esprit mauvais. Il fallait qu'elle-même le veuille. Martyr éorique et bienheureux, vraiment appelé et choisi pour entrer dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et donc, Félicité, elle accouchera, puis ensuite elle sera aussi exécutée. Et donc ça, c'est les martyrs d'Afrique du Nord.
Qu'est-ce qui a présidé au choix de certains de ces martyrs dans le canon?
Alors ça, c'est un peu difficile à dire pour la constitution du canon romain. Je crois que la première trace du canon romain, ça doit être à Milan. C'est la liturgie ambrosienne qui nous l'a conservé. Et alors, je crois qu'au début, les deux listes de saints n'étaient pas complètes. Ils ont été rajoutés au fur et à mesure, mais c'était les saints qui étaient honorés à Rome, en fait. Donc les saints apôtres, tout ça, et puis les martyrs romains, Lynque, Clément, Corneille, etc. Tout ça sont des papes, oui. Et puis un certain nombre de saints italiens dont la vénération était grande, Cécile, Agathe, et du coup aussi des saints d'Afrique du Nord comme Cyprien, Félicité Perpétue.
L'Église universelle.
En fait, ce sont des saints dont la. Donc vous voyez, par exemple, Polycarpe n'y est pas, Justin non plus, alors qu'il a été pourtant martyrisé à Rome. C'est un peu le hasard de la dévotion.
Justin
n'est pas dans le canon romain. Donc voilà. Écoutez, peut-être comme on va peut-être s'arrêter là, parce que sinon on va commencer une autre section. Alors.